Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez la programmation spéciale estivale de En bas à gauche.
Après plusieurs tentatives d'évasion qui valurent à Jacob quelques semaines de réclusion cellulaire, nous le retrouvons fin 1908 en compagnie de Ferrand, qui venait d'être affecté à la même case que lui. Affaibli par les séjours au cachot, Jacob est à présent tenaillé par une forte dysenterie.
Salut vieux, dis-moi. J'arrive pas à me remettre de mes vacances à la cage. Je suis bouffé par la chiasse. Dis Joe, tu veux pas me garder mon plan?
Pas de problème, je vais le planquer dans un pain de savon que je viens de me débrouiller.
Quelques jours plus tard...
Alexandre, Alexandre, le plan, je me suis fait estamper.
De Dieu! Je suis sûr que c'est cet enflé de Corse qui a fait le coup. Hé les gars, vous entendez? Si c'est cette charogne de Capelletti qui m'a emboucané, je vous assure que cette fois, je me le farcis.
Fais gaffe qu'ils prennent pas les devants. C'est un chien enragé. Il paraît qu'il a déjà empoisonné deux gus à Saint-Joseph.
Effectivement, plus tard, à l'heure de la soupe...
Hé, la narcho, à ta place, le bec trépasse, bouillon de lentilles.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle a, la mastègue, aujourd'hui?
Elle a que j'ai vu l'autre casserole de Capelletti foutre un truc en loose dé. Ça m'étonnerait pas que ça soit de la natura.
Oh, le salaud. Je vais le saigner comme un goré, ce saligo. T'entends, l'infâme? Je vais te percer.
Prends ça, fumier! Laissez-moi, assassin! J'ai rien fait! Je veux pas crever!
Tu vas la taire, ta gueule, dis! Tu vas la taire! C'est fini. Ce malfaisant n'emmerdera plus personne maintenant.
C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Oh, nom de Dieu!
Il a essayé de m'empoisonner, je l'ai foutu en bas. On fasse analyser le contenu de ma gamelle.
Mais celle-ci se révèle être négative. Du coup, la légitime défense ne tient plus. Le chef de camp, Raymond, qui veut la peau de Jacob, le fait inculper d'homicide et le remet au cachot.
Coula, Jacob. Fini de faire le mariole. Qui coupera pas à la veuve?
Alexandre, tu m'entends?
Oui, oui, mais sois discret. Les gaffes sont pas loin et c'est pas le moment de se faire filer un rapport au cul pour jactage.
Tu parles? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? On est dans la merde, jusqu'au cou. Cette fois-là, ils vont pas nous rater.
T'en fais pas, vieux frère. Les carottes sont pas tout à fait cuites. Et puis si jamais on n'arrivait pas à jouer la légitime défense, avant qu'ils nous fassent monter sur la bascule à Charlot... Il peut s'en passer des choses.
Mais qu'est-ce que tu comptes faire?
J'ai demandé à Marie de m'envoyer deux revolvers planqués dans des boîtes de conserve. C'est Malato, mon vieux pote de Marseille, qui s'en occupe. Il les enverra d'ici la fin septembre à Fernand-Faux. Tu sais, le vieux Madelon, plus personne ne fait gaffe à lui.
Et alors? À quoi qui nous serviront tes flingots sur les îles?
Pas du tout. On se démerdera pour les récupérer à Saint-Laurent au moment du procès. Au retour, quel que soit le verdict, hop, on braque les surveillants sur le bateau, on les fout là-bas et on met le cap sur le Brésil.
Mais avant d'être jugés par le tribunal maritime spécial de Saint-Laurent-du-Maroni, les deux accusés, en guise d'instruction, doivent passer devant le substitut du commissaire rapporteur des îles du Salut.
Matricule 34777 et matricule 34724. Vous êtes accusé d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne du transporté Capelletti. D'après les rapports des surveillants, vous auriez frappé à plusieurs reprises la victime à coups de couteau après lui avoir fallacieusement reproché d'avoir versé du poison dans votre nourriture. Or, selon le médecin qui a procédé aux analyses, Il n'y avait aucune trace de substance nocive dans votre bouillon de bœuf.
Permettez-moi, monsieur le substitut, de vous faire remarquer que nous ne sommes pas en Palestine. Et pourtant, ici, les miracles sont encore plus surprenants que ceux opérés par Jésus-Christ. Je voudrais bien savoir comment une soupe de lentilles a pu se transformer en bouillon de bœuf.
Quoi, vous prétendez que...
Monsieur le substitut, renseignez-vous. Vous n'avez qu'à vérifier et vous constaterez qu'il y a eu manipulation pour aggraver les accusations portées à notre encontre.
Effectivement, lors de la séance du 5 octobre 1909 du tribunal maritime spécial de Saint-Laurent-du-Maroni, l'administration reconnut la tentative d'empoisonnement sur Jacob. Il a réussi à sauver sa tête, il échappera à la peine capitale. Heureusement, car le colis libérateur n'est pas arrivé à temps. Cependant, le tribunal considérant que l'accusé n'avait pas à se faire justice lui-même, le condamne à 5 ans de réclusion. Ferrand, lui, prend 3 ans pour complicité. Nous les retrouvons 6 jours plus tard sur le vapeur qui ramène les réclusionnaires vers les îles.
Trois pigeons au trou ? Dis-tu, te rends compte ? Le cachot, la cage, la morlante ? On va y crever, Alexandre ?
Te casse pas la tête. Si toi, Saint-Joseph, on fait appel.
Ah, si tu crois que ça va changer quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute tes passes d'armes avec la coloniale ? Tu sais, j'ai l'impression que je vais plus faire long feu sur ces îles de malheur. Faut que je m'arrache avant de bouffer le pissenlit par la racine.
Calme-toi, Joe. Tiens, mate les gaffes. Ils sont encore plus mauvais que la mer aujourd'hui.
Ça suffit ! Taisez-vous ! Ça suffit !
Tu vas t'allonger ? Pourriture ! Faut que je t'aille un coup de pompe dans l'oignon !
Oh, déconnez pas, chef. J'ai pas fini de croûter, y a des gars qui sont malades. Ils ont démangé tripes et boyaux. Je vais pas m'étaler dans la vomisserie.
Ah, tu veux pas obéir, crapule ? Je vais te dresser, moi. Tiens, ça leur apprendra à ces racailles à respecter l'administration. Il y a d'autres qui veulent du plomb ?
C'est grave. C'est vraiment assassin et compagnie. T'as vu ça, Alexandre ? Ce chien a flingué le rital de sang-froid pour une connerie. Faut qu'on fasse quelque chose.
Laisse courir, chaud. Si on avait reçu les revolvers, je dis pas. Mais là, désarmé... Entravé en pleine mer, y a rien à faire.
C'est ce qu'on va voir. Écoute, j'ai réussi à faire sauter la manie qui retient notre chaîne. On approche des îles. Y a 3 pas à faire. Un saut dans la flotte et à nous la belle.
Quel fada. Avec les requins, t'as aucune chance.
Je m'en fous. J'ai plus rien à perdre.
S'arrache, ce con. Bonne nom de Dieu. Au canot. Saloperie. Si tu crois aller loin à la nage, c'est en enfer que j'ai envoyé, moi.
Mais le sanguinaire Bonal rata son coup. Cependant, ayant mis une embarcation à la mer, les 2 surveillants n'eurent aucune difficulté pour mettre fin à la tentative désespérée de Ferrand. Sitôt son arrivée à Royal, Jacob adressa au ministre de la Justice une plainte contre le surveillant Bonal pour assassinat et tentative d'assassinat, ce qui lui valut bien évidemment d'être à son tour inculpé de dénonciation calomnieuse. Il réussira à se disculper devant le tribunal maritime spécial le 22 novembre 1911, tandis que Ferrand, lors du même jugement, écope d'une année de réclusion supplémentaire pour sa tentative d'évasion. Le vieux complice de Jacob n'en reviendra pas. Son plongeon de la dernière chance aura été en fait son ultime essai pour quitter vivant le mouroir guyanais de l'État français. Quant à Jacob, il était repassé en appel le 13 avril 1910 pour le meurtre de Capelletti, où sa peine fut de fait confirmée.
Ici l'hiver, les pauvres gèlent, sont maigres comme des manches de pelle. Leur maison est pas isolée, puis le gaz est coupé. Les pauvres ont pas d'argent, les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser, sont toujours cassés. Les pauvres vont pas voir de chaud, les pauvres sont ben trop nono. Les pauvres n'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont sur le bien-être, ils regardent par la fenêtre. Les pauvres n'ont pas l'eau chaude, cherchent les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Ils voudraient bien qu'un jour, ça soit leur tour. Les pauvres ont du vieux linge sale. Les pauvres, ça s'habille bien mal. Se font toujours avoir. Ils font pas d'affaires. Les pauvres s'achètent jamais rien. Les pauvres ont toujours un chien. Les pauvres se font prendre à voler. Ils se font arrêter.
Les pauvres c'est de la vermine, du trou, de la famine. Les pauvres ça couche dehors, les pauvres c'est bien peu de choses. Ça boit de la rapine, ça regarde des vitrines. Et quand ça va trop mal, ça se tape sa photo dans le journal. Ça m'envie tout le temps. Les pauvres, c'est bien achalant. Si l'envie est si malaisée, qui passe pas, qui passe pas, qui passe pas de bébé. Les pauvres ont des grosses familles. Les pauvres se promènent en béquille. Sont tous pauvres de père en fils. C'est une marque, c'est une marque, c'est une manière de le vice. Les pauvres sortent dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils prennent des briques sur la tête pour eux. Le temps s'arrête, les pauvres, ça mange le pain qu'on jette sur le chemin. Les pauvres comme les oiseaux, c'est mieux dans les pays chauds. Sont maigres comme des manches de pelle. Leur maison n'est pas isolée. Et puis le gaz,
oh, le gaz,
le gaz est coupé. Les pauvres prennent jamais de vacances. Les pauvres n'ont pas de chance. Les pauvres restent toujours chez eux. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas des sorteux. Les pauvres aiment la chicane. Ils vivent dans des cabanes. Ils vont pas à l'école, c'est pas des grosses bolles. Ça mange des semelles de bottes avec du beurre de peanut. Ils sentent la pauvreté que c'en est une vraie calamité.
En 1912, Jacob sort du tombeau où il vient de passer 44 mois les fers aux pieds. Au cours des 4 années qui suivent, malgré des problèmes de santé persistants, Jacob, que l'on présente aux visiteurs de marque comme le bagnard le plus dangereux des îles, multiplie les tentatives d'évasion. Mais tous ces essais qui se sont soldés par des échecs cuisants n'ont fait qu'augmenter la surveillance dont il est l'objet. Nous le retrouvons courant 1916, se promenant en haut des falaises de Saint-Joseph, en compagnie du forçat Dieudonné, que les assises de la Seine avaient condamné aux travaux forcés à perpétuité en février 1913 pour sa participation 14 mois plus tôt au braquage de la rue Ordinaire, dont l'histoire se souvient comme de la première action armée du groupe de Jules Bonneau.
Marrant, tu n'imaginais pas amateur des classiques de 89
culture révolutionnaire. Quand tu penses à tous les bons bougres qui se font casser la maboulette au son de la Marseillaise, t'as plutôt intérêt à émerger différemment le sens que tu fous dans ces histoires-là. Franchement, les symboles, qu'est-ce qu'on s'en éloigne.
Y a bien que Galonné qui consomme du truffion à grands coups de mitraille, qui attache encore de l'importance à toutes ces conneries.
Paul, l'ami, j'ai bien peur que les trois couleurs fassent encore longtemps marcher au pal populo. T'as qu'à voir comment la meute t'a hurlé quand t'as fusillé ce misérable garçon.
Oh merde, je t'ai déjà dit que c'était pas moi qui l'avais buté, Cabi. Si cette vache d'engeance d'enquesteur de la Société Générale m'avait pas mouchardé, j'aurais pas été aux assiettes, à deux doigts de passer mon cou dans la lunette. Et je serais pas maintenant en train de moisir dans cette île pourrie, bordel.
T'excite pas, je suis allégé. Tu me l'as expliqué l'autre jour. Bonneau t'a innocenté avant de se faire trucider par les Argousins et Calmin a pris sur lui le coup de la rue Ordinaire. Te casse pas la tête. Je t'en reparlerai plus. Par contre, si t'as toujours dans la tronche l'idée de t'arracher, il y a de quoi causer.
Ouais, t'as du nouveau? Y a quelque chose dans les ajabs?
Écoute, avec de l'argent et des armes, nous passerons partout. Pour le pognon et le reste, je me suis arrangé par le courrier. C'est un garçon qui va être libéré et qui va s'installer à Saint-Laurent qui recevra le colis.
C'est bien joli tout ça. Mais la fuite, la belle, la grande décarade, comment on va l'amener?
Attends, tu sais pas tout. J'ai un vieux camarade à Paris. Il a réussi à se procurer deux costards de caoutchouc, les ricains filent au passage des bateaux, qui arrivent de se faire torpiller par les deux temps. Avec ces gilets-là sur les embosses, On peut se foutre à la flotte et se faire embarquer par ces satanés courants pendant des plombes, sans craindre de couler rapide. Ce petit matériel, plus les deux revolvers et les 15 billets de sang fournis avec, voilà qui devrait nous aider à mettre les bons entre deux casses.
Joli programme, ma foi. Et quand commencerait la fiesta?
Aussitôt que l'autre lascar sera relâché et dès qu'il aura reçu le paquet. D'ailleurs, quand on parle du lot, regardons qui arrive. Le gonz en question. Oh, Ferbos, viens voir par là.
Salut Jacob, ça va? Dis donc, tu sais qu'il y a un bricard qui m'a affirmé que je serai du prochain convoi. En trois semaines, fini les îles.
Je suis content pour toi. Mais tâche de pas oublier tes promesses et tes compagnons de la fortune.
T'habille pas, il n'y aura pas de coup fourré. Je suis régulier. T'imagines plus de 21 jours sur cette terre de misère? Dis-moi, t'as pas un petit bouquin prêté pour patienter?
Il y aurait bien l'unique de Stirner que je viens de finir de relire. On ne peut pas dire que ce soit un petit bouquin, mais qui trouvera des idées qui devraient te plaire. À moins que tu connaisses déjà.
Jamais entendu parler. Je passe te prendre à ta case.
Reviens ce soir, avant la soupe. Tu verras, les théories de ce gars-là ont influencé pas mal de zik qui ont fini par ici. Mais faut pas oublier.
Eh, ou toi, qu'est-ce que vous foutez là? Retournez vers les cases, vers le rang de Dieu.
Malheureusement pour les deux illégalistes, l'individualisme stirnerien, mal compris par Ferbos, ne produisit pas l'effet prévu. En effet, à la réception du fameux colis, il se garda bien de le transmettre à ses destinataires. Il se l'appropria, voyant à l'échec la tentative de Jacob et de Dieudonné de s'enfuir ensemble. Néanmoins, l'ancien de la bande à Bono réussira sa belle et pourra retourner en France une douzaine d'années après que les Browning des bandits tragiques se soient tus.
Je vois les potes chauffer, frapper de tous côtés, le contre me disait, l'usine, je veux pas y retourner, non, non, c'est pas le moment de traîner, je fonce dans la mêlée, l'usine, je ne veux pas y retourner, l'usine, je ne veux pas y travailler. Syndicat est venu pour causer. Déconnez pas les gars, faut défendre votre métier. L'usine, ce qu'on veut c'est la casser. Après deux, trois boulons, le ton avait changé. Ce fut la dernière heure d'un pauvre racketteur. Les moutons enragés ont brouté leur berger. Syndicat, ce qu'il veut c'est s'incruster. On l'a collé dans le tour pour en faire une lampe de chien. Hey, à table. Quelque part à Saint-Tropez, t'attends bien justement, on va faire une virée. Saint-Tropez, ça va faire un bon brasier. Ceux-là sont pas payés, voilà du beau
1925, alors que Jacob prépare une nouvelle évasion, perdant tout espoir de quitter les îles, les efforts multipliés de Marie Jacob portent enfin leurs fruits. Elle n'a jamais cessé de tout mettre en œuvre pour que son fils quitte Cayenne. Secondée par Maître Aron, elle envoie requête sur requête. Toutes sont refusées. Pourtant, le 25 février 1925, commence une importante campagne de presse pour la libération de Jacob. C'est Charles Million, journaliste au Peuple, organe de la CGT anarchiste à l'époque, qui l'orchestre. Les témoignages sur la conduite de Jacob s'accumulent. Le docteur Rousseau, Sautarel, le comptable Alric, qui avait employé Jacob à Cayenne, Maître Aron, l'ancien bagnard Jean Normand. À son tour, le célèbre journaliste du Quotidien, Louis Roubaud, rencontre Marie Jacob.
L'herbe a repoussé 20 fois sous les pas d'Attila et 20 années ont chargé les épaules d'une vieille femme. Dans sa prison, le chef des travailleurs de la nuit écrivait à un de ses complices qui n'avait pas connu de famille « Une mère, vois-tu, c'est l'humanité. Il croit avoir aimé l'humanité comme il a aimé sa mère. Et il a tellement expié ses erreurs. Madame Jacob est une vieille dame en vêtements sombres, pauvre et propre. Elle est devant moi, émue comme devant un juge. Elle se garde bien de dire toute la vérité. Elle passe sur les fautes. Je la ramène d'un mot. Attendez, vous allez trop vite. L'année précédente, où travaillait-il? Qu'a-t-il fait? Pourquoi a-t-il été mis en prison? Elle me regarde avec méfiance. La mémoire lui manque tout à coup.
Je suis trop vieille. Il y a trop longtemps de tout ça.
Depuis 20 ans, elle a fait toutes les démarches, sensées ou insensées, pour faire obtenir à son fils une commutation de peine, une amélioration de régime, la grâce enfin. Elle a voulu partir pour la Guyane. Alexandre s'y est opposé fermement. Si tu me parles encore de cette folie, je ne t'écris plus. Elle a vécu en faisant des ménages à 6 sous de l'heure avant la guerre, 50 sous aujourd'hui. Et elle a tant travaillé, elle s'est tant privée de toute chose qu'elle a pu économiser pour le jour où son fils reviendra. Quand Alexandre était encore enfant, Joseph Jacob, le père, travaillait dans une boulangerie de Marseille, rue Fontaine-Rouvière.
Mon mari, il était brave. Et je n'aurais pas eu à me plaindre si ce n'avait été le Pernod. Quand il rentrait, je sentais tout de suite qu'il en avait pris. C'est que ça ne coûtait que 3 sous au comptoir.
Et elle ajoute en hochant la tête.
Vaille. Je la connais, cette odeur. Joseph Jacob avait de méchantes ivresses. Il répondait à un reproche par des coups. Mais malgré son vice, on a pu s'établir. On a eu d'abord une boulangerie à nous, puis une épicerie droguerie, dans la rue du Dragon. Le crédit ne manquait pas et les affaires auraient marché, mais... Mais mon mari n'avait pas le caractère solide. Les amis l'entraînaient. Alexandre, lui, a été bien élevé. Il ne gaminait pas dans la rue. Ce n'est pas lui qui aurait manqué l'école. Si vous saviez ce qu'il était affectueux pour moi, il n'en avait pas comme lui. Quand on s'était disputé avec le père, il s'asseyait sur mes genoux pour m'embrasser et il me pleurait dans le cou.
Mais alors qu'il était encore très jeune, il a quitté le domicile parental pour fuir les mauvais traitements de votre mari.
Oui, 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 à 11 ans, après son certificat. Le père l'a fait embarquer comme novice à bord du Tibet de la compagnie Fressina. Il était allé à Dakar, mais il a pris les fièvres. Puis il est passé aux messageries, il a fait l'Australie, sur la Mambéique et la ville de Ciotat. Il était dans tous ses voyages le novice du capitaine. Il en a rapporté des certificats pleins d'éloges sur sa conduite, son intelligence et son travail. À terre, il ne dépensait pas sa paye avec les autres. Il l'a rapporté à la maison, avec les pourboires que lui donnaient les voyageurs. Vous voyez, il avait pris goût à naviguer. Les officiers lui donnaient des leçons d'hydrographie. Il s'était instruit pour passer les examens, mais c'est la maladie qui l'a arrêté. Il était devenu maigre, pâle, avec une mauvaise toux.
Le métier était trop dur pour lui?
Oui. Oui, alors il est entré comme typographe dans une imprimerie rue de la République, près du boulevard des Dames. Il avait 16 ans alors, il gagnait 30 sous par jour et ne dépensait rien. Il s'abreuvait déjà d'une autre boisson que le Pernod. Dans la chambre d'un ami typographe, tous les jours, entre midi et 2 heures après un déjeuner frugal, il dévorait. Des livres qui parlaient de révolution et de justice. Vous savez, en ce temps-là, régnait dans les grandes villes une sorte de terreur anarchiste. Il y avait eu des attentats auxquels la presse avait fait une retentissante publicité. Puis la suite, vous la connaissez déjà, la prison, pour une histoire de chimie, l'internement à l'asile, l'évasion, puis quelques années après, l'arrestation à Abbeville et le procès. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 11 novembre 1905. Ces dates-là, je m'en rappelle. Je suis allée à Saint-Martin-de-Ré, je l'ai vu monter sur l'échelle du bateau, mais on n'a pas voulu me laisser l'embrasser.
Et depuis, toutes vos pensées, Toute votre vie n'ont qu'un but, revoir votre fils. Je ne connais pas Alexandre, mais je vous connais vous, et je comprends tout ce qu'un cœur de mère peut contenir de dévouement et quel trésor de tendresse vous avez pu accumuler depuis 20 ans.
Oh, j'ai jamais abandonné. Toutes les occasions ont été bonnes. Même la guerre m'a servi de prétexte pour essayer de le faire revenir. J'avais écrit au ministre et je me souviens d'une phrase en particulier où je lui disais « On a reproché peut-être à mon fils de ne pas s'être laissé emporter par le courant qui existe dans le milieu du bagne, c'est-à-dire l'entière soumission qui fait un bon forçat. Je ne puis m'expliquer, ce serait trop long, mais quand on est un homme, dans quelque milieu où l'on se trouve, même au bagne, on garde sa dignité d'homme. Et c'est pourquoi, et je sais qu'à cela mon fils n'a jamais manqué, je viens vous dire, sans aucune prétention, que mon fils est un homme. Mais bon, cela n'a rien donné. Ah, mais je perdrai jamais l'espoir de revoir mon fils. »
Une pétition en faveur de la libération est adressée au président Herriot et circule largement. La réponse est favorable. La peine est commuée à 5 ans de réclusion à accomplir dans la métropole. Jacob quitte la Guyane à la fin de l'année 1925. Sa peine fut ensuite commuée en 2 ans d'emprisonnement que Jacob accomplit à Fresnes. Il aurait pu en sortir plus rapidement s'il avait accepté de collaborer avec l'administration pénale. Il fallait dénoncer un camarade, il n'en était évidemment pas question. Alexandre Jacob fut libéré le 30 décembre 1928, après 25 ans et 3 mois de bagne et de prison.
Les pauvres se font prendre à voler, ils se font arrêter. Les pauvres c'est de la vermine, du trou, de la famine. Les pauvres ça couche dehors, les pauvres c'est bien peu de choses. Ça boit de la rapine, ça regarde des vitrines. Et quand ça va trop mal, ça se tape sa photo dans le journal.
C'est ce qui met fin à cette émission d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Retrouvez-nous la semaine prochaine, mardi à 9h pour notre programmation estivale spéciale. Et d'ici là, retrouvez l'ensemble de notre programmation. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez également nous laisser des commentaires, tout ça sur notre site web que vous devez vraiment aller visiter à en bas à gauche, wordpress.com. Comme on vous retrouve la semaine prochaine, mardi 9h, sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonne semaine!